Actu SF, les podcasts.
Alors je vous invite à prendre place que Jean-Laurent va débuter sa lecture. Donc on a demandé à chacun des auteurs de nous lire un passage de leurs ouvrages. Et Jean-Laurent nous a réservé une petite surprise, parce qu'en fait, c'est un passage d'un ouvrage qui est à venir. Et on va entendre les quelques minutes. Jean-Laurent va vous introduire le titre. Je ne sais pas si tu l'as déjà. En tout cas, l'idée de l'ouvrage, le scénario. Juste auparavant, je voudrais prendre quelques instants pour vous présenter la journée en quelques mots. Donc, on va faire une première lecture avec Jean-Laurent. Ensuite, on aura un échange avec Fabien, Jean-Laurent et moi-même, où on va parler un peu de leurs univers, les découvrir un peu plus pour ceux qui ne les connaissent pas, essayer d'approfondir les choses pour les autres qui les ont déjà lus. Et on terminera cette première intervention par une lecture de Fabien, du bâtard de Cossigan. Ensuite, on fera une pause, et puis on essaiera de ne pas partir trop, pas démarrer trop tard, parce qu'on est déjà un peu à la bourre, pour enchaîner sur la deuxième séquence, qui sera une lecture par Patrick et une autre par Stéphane, entrecoupée d'un échange avec Patrick et Stéphane. Et ça devrait nous mener à la fin de la journée vers 18h30, et à 19h, on fait un grand quiz, on retourne tous à la librairie, enfin ceux qui veulent, et on fait un grand quiz de l'imaginaire qui nous a été préparé par nos amis de Hard Zone Chronicles, spécialistes du quiz. Et ensuite, on fera un pique-nique dans la librairie, voilà, pour terminer la soirée. Voilà pour la journée. Je vais laisser la parole à Jean-Laurent et qui va nous présenter son prochain ouvrage.
Bonjour et rebonjour pour ceux que j'ai déjà croisés. Donc oui, juste en deux mots pour donner les éléments, je suis un jeune auteur de fantasy historique puisque je n'ai que deux romans à mon actif. Mon premier, Royaume de Vent et de Colère, était sur les guerres de religion. Prenez pour cadre les guerres de religion en France et à Marseille, exactement, le siège de Marseille. Mon deuxième est la biographie un peu onirique et fantastique de Boudica Boadicea, une reine celte qui a tenu face aux Romains sur l'île d'Angleterre pendant le 1er siècle. On pourra en discuter après les interventions, je suis là tout l'après-midi. Mais je me suis dit souvent, qu'est-ce qu'on peut offrir à des lecteurs qui viennent ces deux textes-là, vous pouvez les acheter et les lire, les entendre avec votre propre voix. Aussi, je voulais vous offrir quelque chose d'un peu spécial, c'est deux extraits. Et je vais commencer par le premier extrait de mon prochain livre, qui devrait s'appeler « Je suis fille de rage », et qui prend pour cadre la guerre de sécession américaine. Donc de la première balle tirée au dernier fusil rendu, 4 ans de conflit. Donc ça aborde la question de l'esclavage, de l'émancipation, la guerre civile. Voilà, donc des thématiques joyeuses. Donc ce sera évidemment un roman léger, comme je dis. Je vous donne juste le contexte, donc c'est 1861-1865, la guerre de sécession. On est en 1864, la guerre fait rage depuis 3 ans, pardon. On se demande si Lincoln va être réélu, on est à quelques mois de l'élection présidentielle. Et là, on est à Washington, il y a une motion qui va peut-être passer pour demander l'arrêt de la guerre. La générale qui ne savait pas compter jusqu'à 1. Washington, octobre 1864. La salle du Congrès m'apparaît comme un jardin d'enfants. Chaque sénateur alimente le brouhaha par sa tirade grandiloquente, menaçante ou exaltée. Il manquerait à certains d'entre eux la discipline que j'ai connue dans les champs de coton. Je frissonne malgré moi. 13 ans que je me suis enfui du Maryland, mais certains souvenirs restent toujours prisonniers de ma mémoire et de ma chair. Pour moi, tout ceci n'est pas la réalité. Les hommes présents sont les acteurs emperruqués d'une pièce de théâtre à laquelle les citoyens assistent en public attentif. Les sénateurs n'existent pas en dehors de cette salle. Ils ne répondent qu'aux urnes qui les appellent sur la scène. Ils invoquent de grands idéaux dans leurs répliques. Comment peut-on parler de liberté quand on n'a jamais connu l'esclavage ? Le silence se fait enfin quand le président de séance frappe les trois coups de son marteau. À l'ordre du jour de ce conseil extraordinaire, un vote pour la cessation immédiate ou non du conflit opposant l'Union à la Confédération sudiste. L'histoire a ses nexus, ces instants suspendus où toutes les réalités deviennent incertaines. Des moments si importants qu'ils dépassent la somme des destins qui les composent. Il n'est question de rien d'aussi humain que le bien ou le mal. Il s'agit simplement de faire un choix, dans ses convictions et dans son cœur. Nos vies sont tissées de ces secondes étranges et infinies qui pèsent soudain le poids de notre existence tout entière. Je demande Madame Harriet Tubman à la barre. Je sors de l'encadrement de la porte où je restais en retrait. Les réactions sont immédiates. Les cris offusqués des sénateurs me font bien comprendre qu'ici, je ne suis pas à ma place. Je suis une femme dans une assemblée d'hommes et, si j'en doutais encore, il n'y a toujours pas de noir sur le drapeau américain. Le désarroi des sénateurs est d'autant plus grand qu'on leur avait promis aujourd'hui la venue d'une légende, le général Tubman. Ils voulaient voir un homme beau, souriant et blanc. Ils ne peuvent pas croire que leur héros soit cette petite femme noire de 40 ans aux traits grossiers. Je souris. Je suis celle qui dirige depuis Port-Royal les raids d'éclaireurs et d'espions en territoire ennemi. Sans mes hommes et moi, le Nord n'aurait jamais pris Jacksonville. Je suis la générale Tubman. Je prends place à la tribune sous les sifflements des sénateurs, des républicains aussi bien que des démocrates. Ils se murmurent la négresse et même la guenon. Mais les hommes n'ont plus de fouet pour me mettre à genoux, ni de chaînes pour m'entraver. Je me suis caché dans des porcheries pour fuir mes maîtres. J'ai moins peur aujourd'hui des sénateurs que des cochons avec qui je partageais les excréments et les restes de nourriture. Le président de séance peine à faire revenir le calme. Je patiente. La galanterie de mon auditoire l'emporte finalement sur sa colère. Les ricanements s'éteignent. Il me laisse la parole. Messieurs les sénateurs, qui dans cette salle est pour l'esclavage? Nouveau cri d'indignation, la salle est en émoi. Un sénateur prend la parole. Madame, malgré tout ce que nous devons au général Tubman, nous ne nous permettrons pas de provoquer ainsi notre assemblée. Il n'a jamais été à l'ordre du jour la question de l'esclavage. Il parle du héros à la troisième personne, comme si ce n'était pas moi, incapable de reconnaître les mérites d'une femme même quand elle lui fait face. Il en est bien question, sénateur, puisque vous allez débattre ici même de la fin de la guerre et permettre ainsi à l'esclavage de perdurer. Là-bas, dans le sud, ici, les esclaves sont émancipés. Là-bas, c'est aussi l'Amérique, sénateur. Votre reproche est insultant, Madame Tubman. L'Union a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aider les esclaves pendant ce conflit. Mais là-bas, certains sont encore enchaînés. Le sénateur prend alors le ton d'un adulte qui s'adresse à un enfant. « Nous ne pouvons pas sauver tous les esclaves, madame. Seul Dieu le peut. Nous ne sommes que des hommes. Et moi, une femme, et j'ai personnellement guidé 13 expéditions pour amener des esclaves depuis les territoires du Sud jusqu'au Canada. Je n'en ai jamais perdu aucun. Et vous, sénateur, combien de quoi, madame? À partir de combien d'esclaves morts estimerez-vous cela intolérable ?» Madame Tubman, avec tout le respect que je vous dois, 1. Dès le premier esclave que nous n'aurons pas libéré, le premier que nous aurons laissé mourir là-bas, ce sera inacceptable. Ce ne sont pas des mathématiques ou du commerce, sénateur, ce sont des vies. On ne les compte pas comme du bétail, elles n'ont pas de prix. Nous libérerions tous les esclaves si nous le pouvions, mais le voulez-vous vraiment? Je défends les valeurs de ce pays comme vous, Madame Tubman. Je ne vous permets pas d'en douter. Ce conflit a fait aujourd'hui trop de morts. Il ne faut à présent penser à notre pays, à l'Union. Moi, je pense à l'Amérique une et entière. Je crois que vous ne voulez pas continuer cette guerre, car quoi que vous affirmiez, vous nous haïssez, moi et tous les autres Noirs qui ont trouvé l'asile ici. Madame, vous vous égarez. Vous étiez de ceux qui n'ont pas voté l'émancipation des esclaves, sénateur. Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne me méprisez pas. Moi, la franchie. Vous êtes folle, tout ceci est absurde. Je ne vous déteste en aucune façon. Reprenez-vous, madame, vous faites de cette histoire une affaire personnelle. Cette histoire, sénateur, c'est la liberté. C'est heureux que vous n'ayez aucune rancœur contre moi. Me haïr, c'est haïr le peuple américain tout entier, car nous sommes les fils et les filles de cette nation tout autant que vous. Nos parents et nos grands-parents ont été arrachés de leurs terres pour être enfermés dans des cales, débarqués ici en ayant perdu leurs rêves et leur libre arbitre. Nous sommes les enfants qui avons saigné pour votre nouveau monde. Nous devrions avoir le droit d'en être les citoyens, tout autant que vous. Pendant que d'autres se battent pour étendre cette liberté au sud comme au nord, je commence ici un combat pour que, demain, mes enfants ne soient plus jamais les esclaves de ce pays. Personne ne me fera baisser les yeux, et certainement pas vous, sénateur. Personne dans cette assemblée n'a de sang noir ou blanc. L'Amérique saigne d'une seule couleur. Sénateur, si nous renonçons maintenant à réunifier le nord et le sud et à libérer ces esclaves, tous ces esclaves, alors passez-moi à nouveau les fers au poignet. Il n'y a pas d'Amérique libre et celle qui est enchaînée. Il n'y a qu'une seule nation. Ce rêve, c'est vous qui l'avez fait naître en émancipant les esclaves. C'est vous qui l'avez défendu en poursuivant cette guerre. Et c'est vous qui me l'avez promise en me libérant de mes entraves, moi, la femme noire. Sénateur, reviendrez-vous sur votre serment. Merci. Alors je vais vous lire, je vous rassure, un très court extrait qui sera juste le prologue d'un futur texte qui, lui, il n'y a pas de date encore. Il n'y a pas de titre encore. Je reviens dans un univers qui n'est pas totalement inconnu, parce que si je dis qu'on est pendant les guerres de religion, qu'on n'est pas loin de Marseille au XVIe siècle, ça rappellera forcément quelque chose à ceux qui ont lu Royaume de vent et de colère. J'en dis pas plus, c'est le début. Alors, là encore, c'est un jet, hein, c'est pas un texte finalisé, c'est très court. Sachez juste que nous sommes à Marseille et que nous sommes en mars 1569. Nous voilà à monter la garde, toi et moi, au sommet de cette tour. Tu n'as pas l'air bien causant, compagnon. Ce n'est pas à cause de moi, j'espère. Ah, je vois, tu te méfies de ma face basanée. Tu aurais préféré un visage un peu plus chrétien avec qui faire équipe en ces temps troublés. Détends-toi, l'ami. Je ne suis pas un de ces protestants ou un de ces achachines venus troubler l'ordre de Marseille, la catholique. Partons ensemble d'un bon pied, si tu le veux bien, et profitons de la splendide vue sur la mer que nous offrent les hauteurs du Fort Saint-Jean. Les nuits sont encore fraîches, aussi j'ai amené de quoi nous réchauffer pendant cette longue veille. Sers-toi, si tu n'as pas peur que je t'empoisonne, bien sûr. Ah, la bonne heure, tu ne trembles pas devant la bouteille. Tes collègues m'avaient fait un bien juste portrait de toi en vantant ton courage et tes autres qualités. Ils m'avaient aussi prévenu que tu n'étais pas du genre bavard. Ce n'est pas grave, j'ai assez de mots pour nous deux. Non, merci, pas de vin tout de suite pour moi. Je vais d'abord croquer un fruit pour me remplir la panse. Tu ne trouves pas que le monde est étrange parfois? Toi, à boire du vin, moi, à peler ma pomme. Je ne crois pas au hasard, vois-tu. Si nous sommes ici ce soir, c'est qu'une volonté nous a réunis dans un but bien précis. Je vois ta tête et ce body que tu ne saisis pas où je veux en venir. Mais reçois-toi donc un godet, je m'en vais t'expliquer cela. J'ai tout de suite compris que tu étais un gars à qui on pouvait faire confiance. Alors, à toi, et rien qu'à toi, je m'en vais raconter mon histoire. Je ne la dévoile qu'à peu de monde. En fait, tu es le premier à qui je la confie. Ce sera notre secret à tous les deux. Et aussi sûrement que le jour vient après la nuit, j'ai la certitude que tu ne le répéteras pas et que tu l'emporteras avec toi dans la tombe. Mon histoire commence ainsi. Je m'appelle Silas et je viens du plus beau pays du monde. Merci Jean-Laurent pour cette superbe lecture. Et à t'écouter là dans les premiers instants du texte sur la guerre civile, j'ai hâte d'avoir le roman dans les mains, vraiment.
Il sort quand ?
Alors la question, quand est-ce qu'il part ?
Il sera malheureusement peut-être un peu décalé. Normalement, rentrée 2019, vous l'aurez entre les mains. Voilà. Alors Silas, il reviendra, ça c'est la promesse que je vous fais. Alors quand, c'est compliqué parce que je l'écris dans les creux des autres romans. Voilà.
Ça sera que sur Silas.
Ce sera que sur Silas. Ce sera très différent de ce qu'on peut imaginer sur Silas. Et pour faire le teasing jusqu'au bout, ce sera à la fois un préquel et à la fois une suite à Royaume de vent et de colère. Mais je vous en dirai pas plus. Pardon ?
Oui. Septembre 2019, ouais. Alors, ah, c'est une... C'est 90... Enfin, j'invoque beaucoup de personnages historiques dans ce récit-là. Celui-là est réel, donc quand elle a été esclave, elle a été esclave. Enfin, tout ce que je dis sur elle est vrai. Elle s'appelait Général... C'était son surnom. C'est Général Tubman, son véritable surnom. Elle a vraiment mené 13 expéditions... ce qu'on appelle le train de la liberté aux États-Unis, l'Underground Railroad, d'esclaves des territoires du Sud jusqu'au Canada. La seule chose qui n'est pas vraie, c'est qu'elle n'a pas fait cette intervention-là, même si elle avait des positions politiques. Voilà. Je me suis dit, à un moment, j'ai résumé avec cette prise de parole, en fait, ce qu'elle défendait voilà, sur ses idéaux. Alors.
Est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on t'entend.
Non, parce qu'on a eu des soucis de micro, donc mais on va y arriver. Donc Fabien nous a rejoint, Fabien Cerutti, merci. Et j'introduis ces tables rondes en fait pour dire que ce qu'on voulait faire, c'était évidemment faire parler tous les auteurs, échanger avec eux. On ne pouvait pas le faire avec quatre auteurs, j'ai toujours trouvé compliqué le format. Une fois à la librairie, on a fait avec trois auteurs et voilà, c'était... on avait jonglé, donc on a pris la peine de vous réunir deux par deux, et en réfléchissant bien, il nous a paru que certains univers étaient très complémentaires, et qu'on pourrait avoir un échange, notamment entre vous deux. Vous avez tous les deux un goût prononcé pour l'histoire, hein, comme on vient de le constater, à la lecture du Bâtard de Cossican, donc la série de Fabien... qui se passe donc au XIVe siècle, un petit peu avant, tu joues un peu avec le temps, mais un petit peu avant la guerre de 100 ans. Et est-ce que je pourrais dire même peut-être un goût obsessionnel pour l'histoire ? Hein ? Dans vos deux cycles, dans ton cycle Fabien et puis dans tes romans, à chaque fois on retrouve un narrateur qui est omniscient, ou des narrateurs, mais en tout cas qui mènent l'intrigue, qui mènent le récit. Et je crois que tous deux, vous avez, en général comme beaucoup d'auteurs dans la partie de la fantasy, vous avez vous êtes enclin, vous avez une passion aussi pour les jeux de rôle, vous êtes très rôliste,
coupable,
on va dire coupable, voilà. Donc il nous semblait, voilà, effectivement, qu'il était intéressant de vous réunir. La première question à laquelle je vous demanderai de nous apporter vos réponses et vos impressions, c'est par rapport au mode de narration que vous utilisez tous les deux, qui est en fait assez souvent, enfin toujours dans un univers connu, et avec le souci d'une base réaliste en tout cas. Qu'est-ce que vous apporte ce choix de cette base réelle, de vous appuyer sur l'histoire.
De mon côté, j'ai toujours apprécié de mélanger le réel et le fictif, la réalité et l'invention. Et j'apprécie en plongeant dans l'histoire, de trouver les racines de tous les livres fantastiques que j'ai lus quand j'étais jeune. Et donc, comme j'ai fait des études d'histoire, j'ai découvert pendant ces études d'histoire l'existence d'un grand nombre de textes médiévaux et autres, hein, et antiques, concernant la magie. Et donc, la question du réel et du fictif se mêle finalement dans notre histoire. Les églises sont pleines de sculptures étranges et presque magique. Les écrits de Charlemagne, de Vincent de Beauvais sont pleins de réflexions sur la sorcellerie et les différentes façons de créer des sortilèges. Donc, voilà, donc à la fois j'aime bien mélanger fiction et imaginaire, et en même temps j'ai trouvé dans notre histoire beaucoup d'éléments qui eux-mêmes se rejoignaient sur ces deux thèmes.
Moi, parce que je suis un feignant, parce que s'il faut créer son univers fantasy, c'est long, il faut inventer des trucs.
le cadre historique, c'est quand même plus simple. Alors après, voilà, je mets un bémol sur les guerres de sécession. J'ai pris une grosse claque, finalement, c'est pas si simple, en fait. Quand il y a beaucoup de sources et beaucoup de choses à respecter. Moi, je suis... Moi, le cadre historique, je joue avec, mais je m'autorise peut-être moins que toi à le, entre guillemets, à le trahir. C'est-à-dire tout le contexte historique. Et j'essaie de faire en sorte de pas me tromper. Donc, il est réel. Et dedans, c'est, avec cette contrainte très forte qu'est l'histoire, comment on arrive à trouver des interstices où l'inexpliqué, le surnaturel, le fantastique peut prendre racine. Voilà, c'est un peu ma façon de fonctionner à moi avec l'histoire.
Juste de mon côté, effectivement, du côté médiéval, il y a beaucoup de... je prends beaucoup de liberté avec la réalité, puisque c'est le principe même de ma série. Qui fait que l'histoire médiévale a été quelque part dans l'histoire retravaillée et manipulée. Donc là, je m'autorise un certain nombre de libertés. En revanche, sur le 19e siècle et le début du 20e siècle, là par contre, le cadre historique et les recherches sur le Moyen-Âge sont réels. Et voilà, tout ce qui est dit là, à une ou deux expressions, exceptions près, qui sont volontaires d'ailleurs, c'est absolument exact. Voilà. Il y a une partie qui est plus qui prend plus de liberté et une partie qui est plus rigoureuse.
Oui, d'ailleurs, dans vos ouvrages, il n'y a pas de transcendance. On ne retrouve pas de présence de Dieu ou de il y a des sortilèges. Il n'y a pas des dieux comme ça qui régneraient sur les hommes. Ou est-ce que ça enfin est-ce que...
Alors oui et non, mais en fait je m'appuie dans sur les textes pendant les guerres de religion, c'est le dieu catholique protestant, on reste sur nos croyances contemporaines historiques, mais c'est vrai que j'en invente pas d'autres. J'invente pas un culte supplémentaire dans ceux qui existent déjà.
Moi, j'utilise les cultes. J'utilise les cultes anciens.
J'aime bien être à la marge.
La marge, c'est bien.
La marge, c'est les sous-sols.
Voilà, c'est ça. Caché, toujours caché. Donc voilà, réutiliser des mythes et des choses qui ont existé, des légendes qui ont existé historiquement, oui, je le fais. Mais ils sont pas présents, ils sont pas actifs.
Voilà, exactement, voilà, c'est ça.
Voilà, ou indirectement.
Comme un lointain souvenir pour certaines,
voilà.
Mais elles ne tiennent pas un rôle prépondérant,
oui.
Voire même un rôle tout court dans le déroulé de l'intrigue et du récit.
D'accord, je cite.
C'est dans ce sens-là que je faisais ma remarque. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est que vous laissez justement la place à la politique, je trouve, énormément. Donc on a toujours. Dans vos récits, l'utilisation peut-être de croyances, mais en tout cas toujours à des fins de politique, et pour que...
N'est-ce pas toujours le cas aujourd'hui encore,
les hommes dominent d'autres hommes, au sens large, évidemment.
Quelle est la question?
Celle à laquelle tu voudras bien répondre. sur l'importance de la politique.
Oui, la religion a toujours été au service de la politique. Je réfléchis davantage que l'inverse, il me semble que oui, je dirais que oui, la religion a toujours été au service de la politique, et souvent des hommes ambitieux utilisent les différentes religions pour arriver à leur fin, et en manipulant finalement des gens de bonne volonté qui eux y croient dur comme fer et finissent par être les jouets finalement de gens qui eux sont très politiques, voilà.
Sans dévoiler rien quoi que ce soit pour les personnes qui n'ont pas encore lu l'intégralité.
J'ai moi-même tout oublié.
Mais tu te souviens quand même qu'il y a un personnage pas très agréable.
Ah oui.
Dont on comprend assez rapidement quand même qu'il va se servir de la religion pour exercer un pouvoir.
Oui.
Tenter de l'exercer.
Je le reconnais.
Ces personnages.
Oui, la religion est un moyen. La religion, j'applique cette idée finalement à plusieurs reprises, et
l'idée sous-jacente, c'est celle-ci, c'est que, je la répète, hein, c'est que des gens qui ont des visées soit purement égoïstes, soit politiques, peuvent utiliser la religion à leur fin. Je le redis une troisième fois ou c'est bon ?
Non.
Il y a encore des gens réveillés ou pas ?
Juste une dernière petite question pour Fabien. Dans tes lectures, tu nous parlais de ta découverte des récits du Moyen-Âge. Est-ce que tu parlais de Charlemagne notamment, mais le personnage dont, que tu mets en œuvre, cet inquisiteur, justement, lui, quelque part, est-ce qu'il ne vient pas marquer une rupture dans notre histoire en tant que représentant d'un dogme qui va s'abattre sur l'Europe et... Est-ce que dans tes études d'historien, c'est un passage important, un moment important de l'histoire européenne ?
C'est-à-dire ce moment-là,
ouais,
là,
ce moment-là du
14e siècle, ouais. D'accord, fin du 14e siècle. Et en fait, oui, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai découvert pendant mes études tous ces écrits concernant la magie. Et curieusement, dans ces écrits concernant la magie, il y a un siècle où on en trouve très peu. Et au XIVe siècle, on trouve vraiment pas grand-chose. Alors après, on repart sur des chasses aux sorcières au XVe, etc. Avant, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est plus précis souvent ce qu'on a avant. Les informations qu'on a dans les textes historiques, c'est beaucoup plus précis ce qu'on a avant le XIVe siècle. Au XIVe siècle, on a une espèce de vide. Et après, on repart sur une lutte avérée contre les sorcières et les pouvoirs... surnaturel. Et donc ça m'a intrigué et il me semble qu'effectivement c'est un point de pivot dans l'histoire. Alors évidemment sans doute pas par rapport à la réalité de la magie, mais par rapport à l'image que l'homme se faisait de ce qui était compréhensible ou non par lui. Et donc effectivement avec le début de quelques découvertes, un début de compréhension de ce qui se passait autour, peut-être que cet aspect a momentanément disparu et qu'après on a voulu justement faire complètement disparaître tout ce qui pouvait être lié à ces superstitions ou autres.
Alors merci, la transition est très belle, celle que tu me donnes, parce que on a répété les passes et les tirs au but. Pour l'héroïne de Boudicca, donc l'héroïne du livre Boudicca, on retrouve exactement peut-être le même mécanisme, parce que les Romains arrivent avec le texte,
oui.
Et cette reine celte, elle est héritière de superstitions, et peut-être continuatrice ou pas.
En fait, ce qui était, j'ai presque découvert l'aspect pivot et la richesse de cette période-là. Pour faire très court, c'est la période où les Romains arrivent enfin à mettre un pied sur l'île d'Angleterre et à servir les peuples celtes qui sont sur place. Et on va voir cette cohabitation, cette transition qui se fait voilà, plus ou moins bien, politiquement justement au départ, commercialement au départ, puis après militairement. Et par rapport à ça, ce qui est troublant, c'est tu évoques donc l'aspect transition en fait, cet aspect transition. C'est peut-être pas neutre que j'ai pris la fin des guerres de religion, que je vais reprendre la guerre de sécession, que je prends là. On est vraiment sur des périodes de transition. Il y a des essis, vous savez, dans l'Uchronie, ces moments où tout peut basculer. Il aurait pu avoir un essis très fort si les Romains n'avaient pas pris pied sur l'île d'Angleterre. Grosso modo, qu'est-ce qu'ils font ? Ils finissent de mettre un modèle romain en Angleterre. Donc la fin du modèle, on va dire, je fais très court, hein, plutôt équilibré homme-femme sociétalement des Celtes, même si ce n'était pas aussi équilibré que ça, c'était ça, sur un modèle patriarcal très fort des Romains. L'assimilation des dieux, comme ils savaient le faire, des Romains, ils interdisaient pas les cultes, mais ils assimilaient tout ça à leur propre culte. La mise en place de féodalité, comme on va le voir apparaître après, c'est-à-dire donc du coup les Celtes deviennent des féodaux, et à travers ça un personnage qui est héritière de ça, Boudicca, et qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle croit encore à son identité, elle croit encore à ses croyances, elle veut pas être écrasée parce qu'elle est une femme et elle va être éjectée du pouvoir juste parce qu'elle est une femme, ça lui convient pas. On est vraiment sur une période où on se rend compte que
En voulant aborder par la fiction un thème, on se rend compte qu'on aborde des problèmes de, historiques et des sociétés, des pivots de sociétés qui ont encore écho aujourd'hui.
Oui. Comme d'habitude, avec grand plaisir.
C'est la même. Et c'est, ça s'appelle La Reine Celte et c'est deux, c'est en quatre livres, c'est ça. C'est une d'une autrice anglaise, ouais. Alors, sans vouloir dévoiler, je peux vous dire que donc les Romains, je respecte l'histoire et les Romains à la fin ont bien conquis l'Angleterre, donc pour elle à la fin c'est compliqué.
Tu veux dire qu'il y a les IA aussi
Mais je peux vous assurer que c'est la même, je vois à peu près le texte qui est un très beau texte d'ailleurs, hein, qui est une très belle tétralogie, de, j'ai oublié le nom de cette autrice, qui était un très très beau texte. Et oui, elle est célèbre, hein, parce qu'on l'a réhabilitée en termes de Boadicée en France au 18e, 19e, de façon un peu éthérée. C'est une reine politique et militaire, hein, c'était une reine guerrière. Alors c'était une reine d'abord politique qui est devenue guerrière un peu par la force des choses. C'était une reine politique. Hein. Ouais, tout à fait. Elle était de la noblesse. Elle était mariée à Pratutagos, qui est un homme de pouvoir. Qui était. Ils ont tenté de faire la conciliation avec les Romains au départ. Et puis, paradoxalement, c'est son statut de femme qui l'a évincé. Puis ça, elle a pas aimé quoi. Donc après, elle va raser Londres, enfin, faire des trucs sympas. Voilà. Mais en fait, c'est. Je pense que je trouve que c'est. J'amène une toute petite pierre à des choses qui sont totalement d'actualité. Moi, je pense par exemple à Pénélope Bageux, qui le fait remarquablement bien en BD. C'est remettre en avant plein de personnalités historiques féminines qui ont été oubliées. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y en a des dizaines. Pourquoi elles ont disparu? Comment ça se fait qu'elles ont disparu? Oui, mais on en citera combien? 10 de connus contre combien qui ont réalisé des œuvres, des inventions en termes scientifiques, en termes politiques. Sur les parutions, il n'y a que le nom masculin, oui, tout à fait.
On est bien d'accord. Allez. On est bien d'accord. D'accord.
Victoire, ouais, tout à fait. Oui, ouais, complètement. Et c'est le. Paradoxalement, il y a deux choses que je défends très fortement dans mes textes. C'est les personnages féminins forts. Alors, ce qui est très compliqué pour que ce ne soit pas juste, parfois ce que je vois, mais je jette pas la pierre. Un homme avec des seins, parfois, c'est plus que ça. Donc, comment on habite une personnalité féminine qui soit réellement une personnalité féminine forte, et la diversité sexuelle, raciale. Moi, j'ai des personnages. Scylla, c'est un personnage arabe maghrébin. Moi, je suis d'origine maghrébine aussi. Enfin voilà, Axel est un personnage noir, d'une femme noire. C'est des choses très importantes dans mon récit. Oui, il y a certainement des capitaines mercenaires pendant les guerres de religion noires. Il ne devait pas y en avoir 40. C'est pas grave. C'est important de le revendiquer aujourd'hui. Au 21e siècle. Oui, c'est important sur les personnalités féminines, et j'en reste là. Ada Lovelace, je fais des nouvelles sur elle. Ben voilà, vous avez tout à fait raison.
Ça nous amène à la question suivante, qui était que vous deux, à chaque fois aussi également, vous favorisez l'émergence d'un héros. Alors, pas le super-héros qui sait tout faire, qui...
Si, il sait tout faire, moi.
Oui, il est un peu crâneur.
Il est un peu crâneur.
Donc, mais tu le malmènes un peu quand même.
Bah, beaucoup il même, beaucoup, beaucoup. Bah, de toute façon, voilà.
Mais d'accord. Mais alors, est-ce que l'idée...
Ce qui est terrible dans la vie, c'est de souffrir, en fait. C'est ça, c'est la souffrance. Après, on peut être aussi intelligent, fort, ou tout ce qu'on veut, mais si on souffre, si au final, c'est pour en arriver là, c'est pas gagné. Hein, donc, voilà.
Et puisqu'on parlait de monde de transition, en fait, la question par rapport à l'émergence de ces personnages forts, est-ce que c'est l'idée de faire un personnage qui va être suffisamment fort, qui va pouvoir rappeler le passé, ou c'est l'émergence d'un homme ou d'une femme nouvelle qui accompagne la transition? Comment vous les voyez, ces personnages que vous mettez en scène, vous,
dans ces
moments de transition?
C'est clairement un personnage qui accompagne la transition, qui lui-même va se trouver déchiré, finalement, dans cette transition, va hésiter, va se poser des questions... et ça sera l'objet du deuxième cycle aussi, hein, de savoir comment il va finaliser cette, et quel rôle il va jouer dans cette transition définitive. Voilà. Et hop.
On va l'applaudir.
Oui, les personnages, mes personnages ont toujours sont définis par leur fonction. Ils incarnent quelque chose dans l'époque. Bon, Boudica, c'est flagrant. À un moment, elle incarne ses doutes et le questionnement qu'il peut y avoir à ce moment-là sur cette transition-là. Mais tous mes personnages, par exemple, dans Royaume et devant la colère, c'est ça. C'est Axel, encore une fois, la place de la femme dans un monde d'hommes. Le pouvoir et à quel prix pour le personnage de Victoire, la question de la religion et du pouvoir de la religion et à quel prix pour le... et ainsi de suite. Je pense qu'ils incarnent effectivement des éléments de questionnement qui vont faire basculer, enfin, dont les décisions influent sur l'histoire, ouais. Complètement. Voilà, donc je disais, dernière question avant de laisser la parole à vous tous, là, si vous le souhaitez poser d'autres questions. On a remarqué, enfin, à la lecture aussi, que ces moments de transition sont accompagnés, donc je le disais, par des personnages qui sont là, qui vont représenter soit un futur possible, soit un passé révolu. Et souvent, la transition se fait par un appel à la science. Est-ce que c'est quelque chose qui résonne ou pas? Alors la science, pas forcément la science dure et pure, il peut aussi avoir de l'ésotérisme, mais en tout cas un appel à quelque chose qui ne serait pas, justement je le disais au début, un dieu qui vient régler tous les problèmes, mais comme une avancée dans l'esprit humain et l'utilisation de la science. Alors, par exemple, je pense dans Royaume de vent et de colère à la fuite du mage et de l'arme. Et chez toi, la recherche de Kosigan pour un pouvoir qui lui vient. Voilà. tu vois, voilà. Mais bon, dans l'idée, est-ce que cet appel à la science, vous réagissez là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose qui est volontaire ou comme ça?
Alors, de mon côté, non. Je pense pas que ce soit si flagrant dans mes textes. Avec un petit peu de recul, je pense que plus que la science, en fait, j'ai l'impression que, en tout cas sur les exemples que j'ai pris sur mes premiers romans et sur le prochain, c'est plus des périodes où le conflit armé a quelque chose d'inévitable à un moment. Donc c'est un échec plus de la concertation, de la diplomatie, entre guillemets du vivre ensemble, même si le terme n'est pas très bien choisi, et que le conflit devient inévitable. Je pense que c'est plus ça, plus que l'aspect scientifique sur la transition. Moi, c'est la confrontation entre la rationalité et la croyance. Et l'idée, finalement, sur le long terme, c'est de questionner les croyances selon le prisme de la science et de la rationalité. Et tu as refusé de proposer les anthologies des imaginales, et tu as eu tort, puisque c'est surtout là qu'on trouve ce rapport à la science, et certains lecteurs ici présents te l'ont reproché. Non, je plaisante, hein, je plaisante, et c'est bien, effectivement, c'est bien là le point clé de savoir ce qui, dans ce que je décris pendant longtemps comme étant surnaturel, tout ne l'est pas. peut-être que rien ne l'est. Et si rien ne l'est, alors qu'est-ce qui scientifiquement peut expliquer, qu'est-ce qui historiquement d'un côté et scientifiquement de l'autre peut expliquer qu'on ait cru que ça pouvait être surnaturel. Donc finalement, sur le long terme, c'est ce voyage-là qu'on va faire en suivant le bâtard de Kosigan et ses aventures un peu hautes en couleur parfois.
Merci. Je vous laisse, si certains souhaitent poser des questions, on prend 5 minutes, et puis ensuite on demandera à Fabien de nous faire une lecture d'un passage du bâtard.
Fabien. Moi j'avais un nez oui-oui, mais...
Alors, est-ce qu'il y a des questions? Tiens, je vais te passer le micro.
C'est pas spécialement une question, c'est juste, mais après, je veux pas trop en dire parce que j'ai peur que certaines personnes n'aient pas lu le livre.
Certaines personnes sont armées.
Aïe, aïe, aïe.
Donc, ne dis pas.
Bon, d'accord. Non, mais alors, je dis pas, je dirai juste en aparté tout à l'heure. D'accord, merci.
Est-ce que tu peux te rapprocher, s'il te plaît?
Bonjour à tous les deux. La question, c'est tout à l'heure j'ai entendu que vous étiez rôliste. Et donc, c'est quoi l'influence qu'a eu tout ça, Donjon Dragon, Gary Gygax sur le manuel des monstres, manuel des, enfin peut-être pas, bon, la magie, voilà.
Merci. Installez-vous confortablement.
Tout va bien se passer.
Alors, pour ma part, je pense que je ne sais pas s'il y a des liens directs, mais effectivement, on reste pour ma part, si on pratique de jeux de rôle plutôt dans le médiéval fantastique, donc il y a des éléments qui se feintent. Sur la création de personnages, il y a peut-être des choses un peu qui jouent, le fait d'avoir été rôliste. Avant tout, la grande force, je trouve, d'avoir été rôliste, mais on verra ce que tu en penses, toi, Fabien, c'est... le jeu de rôle, c'est l'outil pour faire travailler son imagination. Donc du coup, on a une capacité, une plasticité, je pense, quand on veut tester à l'écriture son récit. C'est un atout d'avoir été rôliste avant, parce que notamment, on arrive à voir très vite des failles, très vite des choses qu'effectivement, un auteur qui n'aurait pas cette pratique-là n'aurait pas. C'est plus paradoxalement sur la méthode que sur le fond que le jeu de rôle m'aura aidé.
J'adhère complètement à ce que tu viens de dire. Pour répondre par rapport à Donjons et Dragons et Gary Gygax, moi j'ai pas mal joué à Donjons et Dragons quand j'étais jeune. J'ai commencé avec des traductions pirates qui n'existaient nulle part. Voilà, enfin des trucs comme ça. Mais juste, en fait, c'est Donjons et Dragons qui a copié finalement les bestiaires médiévaux et les différents types de magiciens qui existaient au Moyen-Âge. Juste, ils sont allés creuser, ils sont allés chercher ça. Et ils l'ont désincarné en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils l'ont sorti de la réalité et ils en ont fait quelque chose d'autre dans un univers complètement imaginé. Et pour revenir à la première question du tout début, pour ma part, à part Stéphane qui est extrêmement doué pour ça, sinon, créer un univers de toutes pièces, c'est quelque chose qui, si on veut qu'il y ait une vraie richesse, eh bien, c'est vraiment une gageure et c'est quelque chose d'extrêmement complexe à faire. C'est pas, nous aussi, c'est très complexe parce que nous aussi, on doit aller chercher la réalité telle qu'elle est et on doit réussir à la déformer habilement. Donc, c'est très complexe aussi, mais c'est deux complexités différentes. Et donc, Donjons et Dragons, ils ont repris finalement ce qui existait dans notre histoire, dans nos légendes, dans tout, et ils l'ont sorti pour en faire un jeu médiéval fantastique finalement. Et donc, oui, ça m'a influencé. Eh bien, en fait, j'ai commencé à écrire les histoires du bâtard de Kosigan dans un univers de Donjons et Dragons, puisque je les ai écrits pour un jeu de rôle informatique qui était Neverwinter Night, où on pouvait créer des scénarios soi-même. Et donc, j'ai raconté les histoires du bâtard. D'ailleurs, si vous voulez savoir la suite, vous pouvez fouiller sur Internet. Peut-être qu'on peut encore trouver ici et là. Mais alors, faut en vouloir parce que j'avais fait beaucoup de contenu supplémentaire. Donc, c'est ce qui s'appelle des hacks. Donc, les hacks amènent de nouveaux contenus visuels, de nouvelles. Il y avait des chansons, il y a plein de trucs autour du bâtard de Kosigan que j'avais fait. Hein ? Il y avait une galerie de portraits qui allait avec. Enfin, il y avait tout. Et donc, l'idée, c'était justement de ramener Donjons et Dragons dans la réalité. C'est ça mon idée de départ, et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé les premières histoires du bâtard de Kosigan sur informatique. Donc ça a eu une influence directe. Et ensuite, ça a une influence en termes de rythme. Après, ça dépend de la façon qu'a chacun de jouer au jeu de rôle. Moi, en tant que maître de jeu, j'aime impulser du rythme à mes parties. J'aime quand les choses avancent, évoluent, quand on apprend des choses, quand on a des réponses. Peut-être pas toutes les réponses, mais quand on a des réponses importantes et que voilà, il se passe des choses et il y a des évolutions nombreuses et haletantes. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Et donc, j'ai repris cette façon de faire, enfin, j'ai essayé en tout cas de la reprendre dans mes livres.
Merci. Est-ce qu'on passe à la lecture ? Ah, une dernière question, allez.
Spécifiquement dans Royaume de Vent et de Colère et dans Le Bâtard de Kosigan, si vous deviez chacun citer votre personnage préféré, s'il y en a un.
Alors, j'ai triché, je vais en dire deux. Parce que dans Royaume de Vent et de Colère, c'est un roman, mais c'est aussi une nouvelle, parce qu'il y a une nouvelle qui termine le texte. Et ça fait, pour moi, c'est un tout. C'est un roman et un texte. Et dans le roman, c'est peut-être le personnage d'Axel, donc cette mercenaire noire qui est en difficulté avec son père, voilà, qui a une recherche d'identité. Moi, je suis assez sensible. Et le personnage de la nouvelle, parce que Gabin, je parle notamment de violence parentale. Voilà, je trouve que c'est un personnage où j'ai beaucoup d'empathie pour lui.
Moi, c'est ma maman. Parce qu'elle apparaît, elle est effectivement très secondairement à la toute fin du livre. Donc je ne pouvais pas dire autre chose, déjà, d'une. Bon, alors, ceci mis à part, parmi les personnages principaux, je dirais que c'est sans doute d'une. J'aime beaucoup Le Bâtard de Kosigan, mais d'une, elle a fait son chemin et je voulais qu'elle meure au début. Elle ne voulait pas. Et elle m'a convaincu de pas la laisser mourir. Et elle est revenue sans arrêt me donner des idées, m'inspirer. Et donc voilà, oui, effectivement, Dune, c'est sans doute mon personnage préféré. Elle est quand même à égalité avec le bâtard de Kosigan, quand même.
Merci. Alors, je vous remercie. Et puis, on va laisser Fabien lire un passage du Kosigan. Merci.
Donc j'ai 2 heures, c'est ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu des passages du Bâtard de Kosigan? Levez discrètement la main, s'il y en a. Non? Donc voilà, c'est pour savoir si je peux refaire un passage que j'ai déjà lu ou pas. A priori, oui.
Ah, je me rappelle, ah, si, en fait. Oh
un mauvais fond. Hein. Alors, exprès, je vais relire. Alors justement, du coup, je vais prendre un passage avec Dune. Dune et Vieille de Lavael, c'est le bras droit, finalement, ça devient, ça n'est pas forcément au début, mais ça devient le lieutenant, le bras droit du bâtard de Kosigan. C'est donc une change-sang, une jeune fille d'origine italienne qui a la faculté de pouvoir transformer son apparence en courbant la lumière autour d'elle et en modifiant légèrement la forme de sa peau et des muscles qui sont en dessous. Alors, dans le cas présent, c'est dans le tome 3 et avec le bâtard de Kosigan, ils doivent découvrir où se cachent les sorcières de Cologne. Et notamment, le bâtard soupçonne que une des femmes de la famille impériale, enfin de la famille impériale des Hohenstaufen, est peut-être l'une de ces sorcières. Et donc Dune est chargée de fouiller les chambres. Elle a déjà fouillé une chambre la veille, et là elle va fouiller la chambre de la fille du duc Dagmar von Hohenstaufen. Et cette fille, on l'a repérée à la messe, elle a pas pris l'hostie, en fait. Elle a pris l'hostie et au lieu de la mettre dans sa bouche, elle l'a fait disparaître. Et donc, du coup, elle est éminemment louche, cette jeune fille. Alors,
proche des pénates de Sigrid von Köln, la benjamine des enfants de l'herzog Dagmar. Elle n'a peut-être pas avalé son hostie ce matin, la môme, mais ça ne veut rien dire. J'aurais fait pareil, moi. Dévorer le corps de quelqu'un, mes parents m'ont toujours rabâché que c'était mal. A fortiori, celui d'un fils de Dieu. A fortiori, si la clamsée saignait à blanc sur une croix. 14 printemps seulement, la gamine. Vous savez très bien qu'il faut un bon paquet d'années pour façonner une sorcelière, capitaine. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis juste que c'est un peu court. J'y vais par acquis de conscience, donc. Et un peu aussi par curiosité mal placée. J'ignore pourquoi, j'ai toujours adoré fouiner dans le linge sale des autres, surtout des damoiselles. Et n'allez pas croire ce que vous allez croire, capitaine, simple tendance naturelle à l'indiscrétion, à peine teintée d'un chouïa de jalousie. La porte, marquetée d'élégants motifs géométriques, n'est pas gardée, elle est fermée à clé, une serrure pas très compliquée. Je vérifie que je suis bien seul dans le couloir, des balles piquent et crochent, et en 10 battements de cœur pénètrent à l'intérieur. Une grande pièce, quelques braises enfouies dessous la cendre de la cheminée, une faible odeur de chaux et de fumée. J'avance, referme silencieusement derrière moi, et donne de la lumière grâce au bougeoir. Direction le lit, en bazar. Je souris. C'est comme si je venais de mettre la main sur un trésor caché. 3 robes jetées en vrac sur la couette blanche et dorée, 4 paires de chaussures par terre. Autour, les coffres sont grands ouverts, débordants et mal rangés. Une odeur de fille accompagnée d'une autre qui pique légèrement le nez, un peu à la manière du poivre, mais différente. La profusion de vêtements de brocart et de bijoux un peu partout laisse supposer que la gamine est gâtée. Des poupées de chiffon et de porcelaine, une dizaine, elle n'est à l'évidence pas non plus entièrement sortie de l'enfance. À l'inverse des femmes mariées, les damoiselles en bouton aiment à dissimuler leurs petits secrets à l'entour immédiat de leur couche, le lieu de leur ensommeillement, comme si clandestinité et rêve se trouvaient indéfectiblement liés. Matelas, coussins et traversins font pour elles des caches merveilleuses. Et pour les plus malignes, il ne faut pas hésiter à fureter dans les recoins, les intérieurs, les bois, et même parfois aller jusqu'à sonder quelques pierres ou lattes décellées à proximité, jusque dans les cieux des baldaquins. Aussi précautionneusement que je le peux, je monte sur la table de chevet, me mets debout et tâte les tissus supérieurs du lit. Et voilà, jolie planquette, moins évidente à trouver que je ne le pensais, cousue sur toute la longueur de la double épaisseur du drap de velours vert, tout en haut de la structure. Il faut être agile pour grimper ici, et de toute évidence, la poussière n'est pas faite tous les jours. Voyons un peu ce que ça dissimule une princesse impériale. J'ouvre de grands yeux. Eh, des manuscrits, petits ouvrages de cuir, in quarto, in octavio et même in duodécimo, ainsi qu'une poignée d'objets dignes d'une certaine attention. Mazette, une jeune jouvencelle qui trouve intérêt à la lecture. La chose n'est pas si commune, mais au point de le cacher. Voyons cela. Toujours debout sur le meuble de nuit, j'étale les écrits sur le velours en altitude. Eh, il ne s'agit pas de livres pieux, ça non, ni de Platon, ni de Virgile. Les enluminures débordent de nus et de chevaliers à l'épée, disons, fort tendue. Roman de la Rose, Le Songe des Vies, la demoiselle qui voulait faire chanter sa lune. Celle qui fut foutue et défoutue par un cerf, et je vous en passe une bonne huitaine d'autres, de quoi se faire fouetter au sang et peut-être même excommunier si la chose venait à se savoir. Il y a des plumes et de l'encre également, au chaud, dans un bel écrin, ainsi que des parchemins griffonnés. La jeune fille semble s'essayer elle-même à la prose, dirait-on. J'en parcours un brin. Cela me fait sourire. Après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Enfin, il la colle étroitement et l'embrasse. Elle lui baisse sa bouche douce. Et le sexe commence à se tendre, qu'elle échauffe et enchante, à bout d'ensorcellement psalmodié. Et dans la paume de la main, il lui plante, avili dessous tout par ses charmes, obéissant de tous ses désirs. Chalaël ! On n'espérait pas débusquer une petite délirie comme ça, si ? Et j'interdis toute comparaison malvenue avec ma propre personne, capitaine, si vous tenez à conserver l'opportunité d'enfanter un jour. Pour ce qui concerne la sorcellerie, il n'y a vraiment rien de probant. Les différentes histoires font allusion à des influences magiques capable de forcer les chevaliers à se mettre à genoux devant les dames en réponse à leurs moindres caprices, mais cela pourrait relever de la coïncidence ou d'une simple fantaisie de jouvencelle. J'écarte un objet à la fragrance féminine et attrape le plus petit des codex, le plus intéressant. À peine un pouce et demi de longueur. Pas de titre, pas d'enluminure. De l'encre rouge sombre et un symbole runique gravé sur la tranche. Délurée, mais peut-être aussi pratiquante des arts sombres en définitive. Ce livre, en tout cas, est de nature à le laisser à croire. À l'intérieur, écrit à la main, des recettes de poisons et de potions, des rituels malsains de soumission, des oraisons démoniaques et des prières aux forces infernales. Plus je tourne les pages, moins le doute paraît permis. La couverture subitement devient glacée, à me piquer les doigts. Ma gorge se serre, un désagréable frisson me parcourt l'échine et je referme l'ouvrage d'un coup, presque malgré moi. Le cuir paraît normal à nouveau. Je cligne des yeux. Ai-je été victime d'une hallucination ? Je serais prête à jurer sur mes ancêtres que non. Ma main au feu que l'encre est imprégnée de sang ensorcelé et de fil de source. Quoi qu'il en soit, je n'ai guère l'intention de réitérer l'expérience. Je fais la moue et mes mains s'affairent à fouiller les manuscrits licencieux étalés à portée. Je les épluche jusqu'à tomber sur celui qui m'a fait tiquer. Là, celui-là, c'est bien ce que je pensais. Son écriture paraît différente des autres. D'un geste hésitant, je me risque à ouvrir à nouveau le petit codex de sorcellerie pour comparer. Juste une page, au hasard, brièvement. Le froid revient aussi sec. Mais j'ai pris soin de protéger ma peau avec du tissu. Fascinant, les deux textes ont été rédigés de la même main et ce n'est pas celle de la jeune fille. Je recommencerai mes petites fouilleries plus tard pour comparer les écritures de Mathilde von Hohenstaufen, la mère, et de Gisèle von Recklinghausen, la tante. En attendant, je vais... Mon cœur rate un battement. Par les dieux anciens, une clé ferraille dans la serrure. En vain, puisque j'ai laissé celle-ci ouverte. Il faut que je me cache, même si les bougies allumées risquent de me trahir. Tant pis pour ma douleur à la jambe, je me hisse sur le bois du faîtage et me laisse rouler sur le velours du haut du baldaquin. Par la pierre noire, c'est comme si un boucher effilait ma cuisse. Le léger crissement de la porte indique que quelqu'un vient de pénétrer dans la pièce. De l'endroit où je me trouve, en prière pour que le tissu ne rende pas l'âme, je ne parviens pas à voir. Mais j'entends. Une personne, pas très lourde, en chaussures légères plutôt qu'en bottes, des frôlements de vêtements à chaque pas, une femme sans doute vêtue de robe. J'hésite. S'il s'agit de l'une des sorcières, dois-je tenter d'intervenir ? De toute manière, les élancements de ma jambe m'en empêcheraient. La dame ne paraît pas s'étonner des lumières présentes dans la pièce. Il ne s'agit donc vraisemblablement pas de la propriétaire des lieux. Elle s'approche du lit. Livres, objets et manuscrits, tout est en vrac sur les dredons, à l'exception du petit codex dans ma main. Mélodie de papier manipulé, accompagnée d'un soupir agacé. La femme tourne autour du lit, le temps d'une centaine de battements de cœur. C'est long, qu'est-ce qu'elle peut bien fiche ? Malgré la curiosité, je n'ose bouger une oreille, jusqu'à ce que, enfin, je l'entende s'éloigner. À l'instant où elle franchit le seuil, je risque un œil et attrape une image de son dos. D'assez petite taille, une large capuche sombre, de belles robes moirées entre brun et noir. L'herzogine Mathilde von Hohenstaufen et sa belle-sœur Gisèle von Recklinghausen sont plus grandes, j'en jurerai. Peut-être votre nouvelle amie, Willy Stein. Je n'ai pas pu voir ses cheveux, je n'ai donc aucune certitude. Je compte jusqu'à 100, histoire de ne prendre aucun risque, le temps également que mes douleurs s'apaisent. Puis je finis par redescendre, serrant les dents. « Désolé, capitaine, mais elle est fort à achever ma cuisse. Il va falloir me mettre au repos cette fois. » Voilà, je vais m'arrêter là.